Alors ce soir, on est dans la suite de l'Apocalypse et on est déjà au chapitre 7. Enfin déjà, peut-être certains trouvent que ça avance lentement, mais on est au chapitre 7. Le chapitre 6, on a vu qu'est-ce qu'il fallait retenir du chapitre 6. Il fallait retenir que les cavaliers, donc les quatre premiers sceaux des six qui se sont écoulés, les cavaliers sont appelés par les êtres vivants qui sont autour du trône et ça nous montre que tout est sous le contrôle de Dieu. Et que même s'il est question de famine, même s'il est question de guerre, même s'il est question de temps difficiles, Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe. Que rien ne lui échappe, mais qu'il contrôle tout cela et qu'il y a un but dans tout cela, évidemment, et c'est un message d'espoir, l'Apocalypse, hein. À savoir qu'il y a une victoire, un triomphe, et que si quelqu'un serait sur une mauvaise voie, ben, par la repentance, il peut vivre autre chose et revenir à Dieu et avoir et retrouver la place qui devrait être la sienne. Alors, Apocalypse chapitre 7 ce soir, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Vous savez déjà tout sur le chapitre 7. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, on verra ensuite tout à l'heure, c'est quoi ces quatre vents qui, au début, il a dit qu'il retenait les quatre vents, donc afin qu'ils ne soufflent pas, et il est dit, et c'est pour ça que j'ai lu le verset 2 aussi, et bien que il dit aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Écoutez, pour la plupart des lecteurs de la Bible et des interprètes, eh bien, ils font la connexion avec Zacharie chapitre 6. Ça vous dit quelque chose, ça? On a déjà souligné à plusieurs reprises que l'Apocalypse, ce n'est pas que de l'inédit. Hein. Ce n'est pas Jean a une vision qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Non, il y avait déjà des thèmes que l'on retrouve dans des prophéties. Et c'est rassurant quelque part. Ça nous montre que ce que Jean voit, ce n'est pas flyé, comme diraient certains, mais que c'est cohérent avec le reste des prophètes. Zacharie chapitre 6 et les cinq premiers versets. Regardez ce qu'il était dit. Il est dit, je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes. Les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. On a lu ce passage dimanche passé concernant les chevaliers de l'Apocalypse. Au troisième char, des chevaux blanc, au quatrième, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux. » Et ici, dans Zacharie, il y a une connexion évidente entre ces chars, avec ces chevaux de différentes couleurs, et les quatre vents. Et donc, sur la base un petit peu de Zacharie, on peut très bien considérer que les quatre vents dont il est question au chapitre 7 sont en fait les quatre cavaliers de l'Apocalypse du début, enfin du chapitre 6. Et s'il y en a qui ne sont pas convaincus, on peut même aller dans un psaume. Psaume 68. Psaume 68, verset 34. Et voilà ce qui est dit dans le psaume 68, verset 34. Que j'ai bien noté là, psaume 68, 34. Je J'ai l'impression que chanter à celui qui s'avance dans les cieux, les cantiques des cieux, voici, il fait entendre sa voix puissante. J'ai l'impression que j'ai une erreur de verset ici. Il va falloir que je... Psaume 68. Bon. Mais écoutez, c'est une erreur de transcription. C'est-à-dire que j'écris tellement bien que... Bon, si vraiment vous voulez connaître le psaume en question, vous m'envoyez un email et je vous répondrai dans la minute qui vient. En tout cas, il y a un psaume qui confirme que ces cavaliers et ces vents sont associés ici. Je reviens à Apocalypse chapitre 7, puisque le psaume n'était pas convaincant ici, mais Zacharie l'est en tout cas. Dans Apocalypse chapitre 7, donc les quatre anges qui sont là sont eh bien, ceux qui, à la fin du verset, il était dit « Il leur avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, mais à un moment donné, eh bien, ils vont être retenus. » Et quand ils sont retenus, il dit « Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point. » Donc, à un moment donné, on suspend son, on retient son souffle, hein, c'est le cas de le dire ici, et... Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui doit arriver ici. Il est dit au verset 3, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et il est donc ici question de marquer du sceau. Le sceau, évidemment, fait référence, vous savez, à cet anneau, à cette bague que l'on pouvait déjà avoir à l'époque de Jean, dans l'Empire romain. Et quand il fallait signer un document... Eh bien, avec cette bague, qui avait un emblème dessus, c'était donc un sceau qui permettait de confirmer une certaine appartenance. Et ici, de la même manière, eh bien, ceux qui sont serviteurs de Dieu doivent être marqués d'un sceau et être là comme identifiés, comme appartenant à Dieu. L'apôtre Paul utilise exactement le même langage. Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 1er, Corinthiens, Galates, Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Éphésiens 1, 13. Il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Vous avez été scellés. Il y a eu un sceau par le Saint-Esprit qui vous a scellé et qui atteste, eh bien, que vous lui appartenez. Et le sceau ici, eh bien, peut être connecté avec le nom de Jésus que l'on retrouve un peu plus loin dans l'Apocalypse aussi. Par exemple, dans Apocalypse à deux reprises, on va commencer par Apocalypse 22, 4. Apocalypse 22, 4. Hein, on tourne un petit peu les pages de sa Bible ici. Apocalypse 22, 4, il est dit. Et verront sa face et son nom sera sur leur front. Et le nom, c'est celui de l'agneau ici, qui est sur leur front. On retrouve la même chose que par rapport à ce sceau, et sauf qu'ici, c'est le nom. Et dans Apocalypse 14, 1, on a le même vocabulaire aussi. Donc, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc ici, on voit que les quatre vents, les anges ici, qui avaient donc pour mission d'amener quelques désolations sur la surface de la terre, sont retenus parce qu'il va y avoir une marque, un sceau, qui va être sur le front de ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont serviteurs de Dieu, pour reprendre le terme exact ici, et ce sceau qui est là est connecté donc avec le nom de l'agneau et celui de son père. C'est donc la marque comme quoi ils appartiennent à Dieu. Le sceau donc est ici un gage d'identité. Et il y a comme une triple identité que nous avons. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici, mais on pourrait parler du sceau du Père, où nous sommes, eh bien, nous lui appartenons comme étant ses enfants et comme étant ses créatures, sa création. Mais il y a aussi le sceau de Jésus qui par son sang nous a rachetés et nous a identifiés comme lui appartenant parce qu'il a payé le prix du rachat par son sang. Et il y a aussi le sceau de l'Esprit qui vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui vient donc sceller une conviction, une marque eh bien, de cette appartenance. Alors, on arrive ici aux chiffres. Il est dit, donc j'entendis le nombre, verset 4, Apocalypse 7, 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000. Bon, comment on arrive à un chiffre comme ça? Il y a toutes sortes d'explications, hein, des plus... Tout le monde, évidemment, quand il a une explication, estime que son explication est la plus sérieuse. Je vous en donne une. Tout le monde sait que le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Hein, on connaît la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Le chiffre 4, c'est celui de la création, avec les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est la création. Chiffre 4. 3 fois 4, 12. Et donc, on a ici les 12. Et 12 ici, ça peut, on pense évidemment aux patriarches, mais on pense aussi aux apôtres. Et 12 ici, c'est l'Église, ça pourrait représenter l'Église. 12 au carré, 12 à la 2, 144. Ah, ça tombe bien. Donc on a 144. Et le 12 à la 2 ici représente quelque part l'Église dans sa plénitude, l'Église entière. L'Église entière. Maintenant, on peut prendre aussi le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est la complétude, comme les 10 doigts de la main. Et si vous mettez cette complétude dans une dimension tripartite, en trois parties, ben vous faites 10 au cube. Ça nous fait 10 au cube. Ça fait combien 10 au cube? Mettez 3 zéros. Ça fait 1000. Vous prenez les 144 000 que vous multipliez par eh bien, les 10 au cube, les 1000, on arrive à une complétude de l'Église, donc les 144 000 pour certains. Les chiffres le disent, je vous ai fait la démonstration par les chiffres, eh bien, c'est l'Église dans sa plénitude. D'autres vont dire aussi, c'est 12 au carré fois 10 au cube, eh bien, c'est 144 000, c'est l'Église dans toutes ses dimension. Et notez bien que dans l'Apocalypse, les chiffres ont toujours un sens symbolique. Hein. C'est rare qu'on ait juste un chiffre pour un chiffre, mais les chiffres ont toujours un sens symbolique. Et même dans Apocalypse 21, il est question de 12 portes à la ville, à cette nouvelle Jérusalem qui a 12 portes. Et dans le même contexte, au verset 17, il est question de cette ville qui est en forme cubique. Imaginez une ville qui est un cube. Et il est dit au verset 17, Apocalypse 21, 17, il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Donc on a encore ce même principe de 12 qui fonctionne avec 144. Mais bon, d'une certaine manière, c'est assez logique puisque 12, 144, ce sont des chiffres qui fonctionnent bien ensemble. Alors ici, on a 144 000. D'autres vont dire, en fait, c'est les 12 tribus multipliées par les 12 apôtres, ça fait 144. Oui, on en fait des multiplications. Hein. Bon, est-ce que ça doit être aussi compliqué? Est-ce que les premiers lecteurs de Jean, comment est-ce qu'ils ont compris lorsqu'ils ont lu eh bien, ici, qu'on en a trouvé 144 000. C'est sûr que le chiffre 144 est un chiffre qui est trop beau pour être exact. Dans le sens où le fait que ce soit exactement 12 fois 12, eh bien, on ne va pas dire que c'est exactement le nombre de personnes va être sauvées. On voit bien qu'ici, on a quelque chose de symbolique et un arrondi qui est là. Maintenant, certains vont faire une lecture littérale en disant, bon, parce qu'on voit que dans ces 144 000 après, il est dit que ce sont 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ensuite, on a la liste hein, de tribus de Juda, 12 000, tribus de Ruben, 12 000, tribus de Gad, 12 000, ainsi de suite. Et donc, certains vont dire, ben, c'est 144 000, c'est le reste d'Israël. Les survivants, quelque part, d'Israël, dans cette époque où, quand même, on a eu déjà six sceaux qui ont été ouverts avec toutes sortes de fléaux qui se sont accomplis. Et il resterait donc 144 000. Mais maintenant, ce qui est surprenant, si on considère ce chiffre-là, c'est de dire qu'il y a exactement 12 000 de chaque tribu qui reste. Donc on comprend que ça ne peut pas être un chiffre ici exact. D'autres vont dire, ben, c'est une portée symbolique ici, mais ça ne représente pas l'Église, mais ça représente Israël. Un peu comme ce que peut dire l'apôtre Paul dans Romains 11. Si vous vous souvenez de ce que Paul dit dans Romains 11, verset 24... Romains chapitre 11, verset 24. Et il est dit, « Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, donc comprenez que l'olivier sauvage, ce sont les non-juifs et l'olivier franc, ce sont les juifs, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. » Et donc ici, on a cette déclaration de l'apôtre Paul que tout Israël sera sauvé. Et certains vont dire, ben, c'est 144 000 qui représentent quand même 12 tribus, et c'est clairement dit dans l'Apocalypse, que ce sont eh bien, les tribus d'Israël, eh bien que ces 144 000, dans ce chiffre qui est complet, eh bien, représentent la totalité des Juifs. Donc ce ne serait pas le chiffre 144 000 qui a de l'importance ici, mais de dire que ça représenterait le tout Israël de l'apôtre Paul aux Romains, tout Israël. Maintenant, pour vous qui avez lu d'une manière attentive eh bien, Apocalypse chapitre 7, vous vous êtes dit, il y a un problème. Parce que il est question de, hein, si on revient à Apocalypse 7, 5, il est question de la tribu de Juda, de Ruben, de Gad, d'Asser, de Nephtali. Vous les connaissez bien les tribus? Oui? Pour l'instant, il n'y a pas de problème? Si. Bon. Genèse 49. On va aller vérifier comment ça marche les tribus dans la Genèse. Genèse 49. Et vous pourrez faire un tableau à la maison pour vérifier ça. Mais si vous allez dans Genèse 49, puis vous gardez un œil sur la liste de l'Apocalypse, tout en regardant ce qui se passe dans Genèse 49. Dans Genèse 49, ici, c'est la bénédiction finale enfin, de Jacob avant qu'il ne meure, et donc il va bénir les 12 tribus. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père, verset 3, Ruben, toi mon premier-né. Ruben. Dans l'Apocalypse, ça commence pas par Ruben, non? Ça commence par Juda. Pourtant, le premier-né, c'est Ruben, mais pas dans l'Apocalypse. Et pourquoi dans l'Apocalypse, on commence par Juda? Certainement parce que le Messie est issu de la tribu de Juda. Et que, donc, quelque part, Juda prend un petit peu le devant sur Ruben. On connaît aussi cette histoire où Ruben avait fait une affaire avec son père. Hein, je ne rentre pas dans ces détails-là. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 7, le premier, c'est Juda, et le deuxième, c'est Ruben. Donc on voit bien qu'on a décalé Ruben d'un cran pour mettre Juda en premier. Alors, je reprends, pendant que vous avez l'œil sur Genèse 49, je vous relis l'ordre de Apocalypse 7. Juda, Ruben, Gad, Asser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Et vous dites, Il en manque un. Dans Genèse 49, il y a la tribu de Dan, mais pas dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, la tribu de Dan a disparu. Allô? Bon, je sais qu'il y a toutes sortes de théologiens un peu farfelus, puis si vous allez sur Internet, vous en trouvez plein. Hein. Vous faites des recherches sur l'Apocalypse sur Internet, là vous allez avoir toutes sortes de réponses. Il y en a qui disent, on l'a retrouvée, la tribu de Dan, elle est au Danemark. Si, si, il y en a qui disent ça, ils sont sérieux, je veux dire. Bon, c'est un peu spécial. Hein. Mais bon, je crois que les Mormons aussi ont toute une théorie concernant la tribu de Dan qui serait aux États-Unis. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle la tribu perdue d'Israël. Mais en tout cas, elle n'est pas dans Apocalypse 7. Et certains sont posés la question, et ça a commencé il y a très longtemps. Irénée, par exemple, un des pères de l'Église, hein, un des premiers commentateurs de la Bible, eh bien, va amener cette hypothèse en disant ben, si Dan, la tribu de Dan n'est pas dans Apocalypse 7, c'est certainement à cause de l'idolâtrie de Dan. Il y a eu quand même... Il a été écarté ici, retiré, parce qu'il y a eu beaucoup d'idolâtrie dans cette tribu-là. Bon, mais notez bien que les autres, ils n'étaient pas clairs non plus. Hein. Je veux dire, dans les autres tribus, ça en est passé. Il suffit de lire les juges pour voir qu'il n'y avait pas que Dan qui avait fait de l'idolâtrie, même les autres tribus. Mais enfin, Irénée a lancé l'idée que l'antéchrist serait de la tribu de Dan. Donc du coup, on comprendrait qu'il pourrait pas être dans cette liste-là. Mais bon... C'est pas parce qu'un antéchrist sortirait d'une tribu que toute la tribu est mauvaise. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, la tribu de Dan est absente. On a une différence entre Genèse 49 et Apocalypse 7. Et quelqu'un dira, c'est pas la première fois. On sait que l'Apocalypse, c'est Ézéchiel, par exemple, et, hein, le livre d'Ézéchiel. Et on va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est pas la première fois qu'on compare Ézéchiel avec l'Apocalypse. Ézéchiel est très apocalyptique et dans Ézéchiel 48, on a aussi une liste des tribus. Sauf que là encore, Ézéchiel 48 n'a rien à voir avec Genèse 49 ni Apocalypse 7. Dans Ézéchiel 48, on arrive ensemble. Ézéchiel 48. On voit que allez, je suis au début. Voici les autres tribus. On voit que dans Ézéchiel 48, la première tribu, c'est celle de Dan. Ensuite, celle d'Asser, ensuite Nephtali, Manassé. Mais par contre, dans la liste d'Ézéchiel, il n'y a pas Lévi. Il n'y a pas la tribu de Lévi. Bon, d'une certaine manière, ça se comprend, parce que Lévi ne fait pas officiellement partie des 12 tribus. Il a dit, attendez, ils n'étaient pas 12, non, ils étaient 13. Vous avez noté ça? Est-ce que je vous perds un petit peu ou... Comment ça, ils étaient 13? Oui, parce que Joseph, comment dire, il y avait 12 fils, mais 13 tribus. Est-ce que vous lisez la Bible? Vous êtes des lecteurs attentifs, vous avez noté ça? Alors, on a effectivement 12 fils de Jacob, d'Israël. Donc il y a les 12 patriarches, mais 13 tribus. Parce qu'il n'y a pas la tribu de Joseph, même si ici elle est dans notre liste, Apocalypse 7. Mais il n'y a pas Joseph ne compte pas comme tribu. Nulle part on voit la tribu de Joseph. Par contre, on voit la tribu de Manassé et de Nephtali, qui sont les fils de Joseph. Les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Oui, pardon, excusez-moi. Éphraïm et Manassé, je me disais, il y a un truc qui... Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph, qui sont ce qu'on a appelé des demi-tribus, mais ça arrive à 12 tribus, parce que Lévi n'est pas compté parmi les 12, puisque Lévi n'a pas d'héritage dans la répartition du territoire, puisque Lévi, comme son nom l'indique, ce sont les Lévites, et donc qui vont servir Dieu, et qui n'ont pas donc de ville, de possession, de territoire. Le territoire est divisé en 12, sur les 12 tribus, dont 2 sont des demi-tribus des fils de Joseph. Vous me suivez? Sauf que dans Apocalypse 7, on a la tribu de Joseph, et on a Manassé. Donc, comprenez que ça vient être mêlant là-dedans. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas des listes qui coïncident? Eh bien, certains théologiens, et puis moi, personnellement, j'irais certainement dans cette idée-là, seraient de dire, c'est parce qu'on n'a pas le même Israël. Et pour nous amener à réaliser et à comprendre que ici, lorsqu'il est question des fils d'Israël, on ne fait pas référence à ces 12 fils de Joseph ou à ces 13 tribus, mais qu'on fait référence donc à une entité qui est donc différente de celle qu'il pouvait y avoir dans l'Ancien Testament. Et dans ce sens-là, on comprend ceux qui disent, alors ça a plus d'allure, que ces 144 000 ne soient pas exactement Israël en tant que peuple d'Israël, hein, les Juifs du pays d'Israël, mais soient plutôt une entité symbolique ou spirituelle. Et dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'ici, il est question de l'Église, puisque quand on dit l'Église, c'est l'Église au sens large, hein, les Juifs y compris, Juifs et Grecs, puisque l'ensemble de ceux qui sont marqués ici et qui ont, je le répète, une marque sur leur front, sont des serviteurs de Dieu. Et que le chiffre 144 000, par la beauté des mathématiques, quelque part, vraiment, représente une plénitude, quelque chose de complet. Alors, la plupart des théologiens s'entendent pour dire que ces 144 000 ne sont pas des chiffres en disant ils sont exactement 144 000. Je sais que quand j'étais jeune ou très jeune, les témoins de Jéhovah, par exemple, disaient non, 144 000, c'est 144 000. Et donc, il y a exactement 144 000 personnes qui sont. Le problème, c'est qu'un jour, les témoins de Jéhovah sont devenus plus nombreux que 144 000. Alors, ils ont dû faire une pirouette pour adapter leur théologie, pour dire, il y a ceux qui font partie des 144 000 et ceux qui sont dans les overs au-dessus des 144 000. Et donc, il y a les premières classes, 144 000, qui vont régner sur la terre, et ceux qui sont en dehors des 144 000 vont régner dans le ciel. On comprend que là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Mais parce qu'on est parti d'une fausse interprétation, puis il a fallu l'ajuster au fil des temps. Donc, nous, on ne veut pas rentrer dans ce piège-là. Le fait que les noms changent, qu'il y ait certains noms qui ne soient pas identiques avec les enfants de Jacob, nous amène à comprendre qu'il ne faut pas faire ici une assimilation exacte, et puis que les chiffres ici, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, montrent qu'il y a des arrondis quelque part, et nous montrent plutôt un ensemble, et de dire qu'ici, ça représente l'ensemble de ceux qui sont serviteurs de Dieu. Après ces 144 000, on arrive au verset 9. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et j'insiste sur ce passage, sur ce point-là, une foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les palmes dans leurs mains, ça ressemble un petit peu quand on a accueilli Jésus à Jérusalem. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Donc on reprend les mêmes personnages qu'il y avait autour du trône dans Apocalypse 4, en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc on comprend ici qu'il y a toute une foule innombrable qui est associée avec les créatures célestes pour rendre gloire à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et ça nous fait sourire quand quelqu'un vient poser ce genre de question, parce qu'on aurait tendance à dire, hey, c'est plutôt à nous à poser la question, et c'est ce que dit Jean ici. Et il dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Sous-entendu, moi j'en sais rien, dis-moi, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Voilà donc ceux qui sont de cette grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ce sont ceux qui ont lavé leur robe, qui ont été blanchis dans le sang de l'agneau. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous faites partie de cette foule? Vous allez dire, oui, mais attendez, là, le problème, c'est que eux, ils viennent de la grande tribulation. Peut-être que le problème, et je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, je ne sais pas, mais c'est que il y a un problème de définition, de vocabulaire, sur ce qu'on appelle la grande tribulation. Je vous rappelle qu'à l'époque où Jean écrit, les premiers lecteurs de l'Apocalypse, quand ils ont lu ça, ils ne se sont pas dit « c'est pour plus tard ». Pour eux, ils sont en train de vivre la grande tribulation. Les chrétiens sont brûlés, Néron s'en servait pour éclairer ses jardins en les brûlant. Ils étaient mangés par des lions. Il y avait toutes sortes d'atrocités qui étaient faites sur les chrétiens. Ils vivaient la grande tribulation. Ils ne se disent pas, oh non, il y a quelque chose de pire qui va arriver. Ils vivaient déjà quelque chose de pire. Et peut-être parce que nous, au Québec, on vit les choses d'une manière plus calme et paisible, on a l'impression que non, la grande tribulation, c'est des choses à venir. Mais allez demander aux chrétiens du Nigeria ce qu'ils pensent de la tribulation qu'ils subissent avec Boko Haram. Ils subissent, et pour eux, ils sont dans une grande tribulation. Allez demander aux chrétiens qui sont en Corée du Nord. Déjà, il va falloir les trouver, parce que s'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont déjà morts. Donc, c'est assez secret. Et nous, on a tendance, parce qu'il y a le mot « la grande tribulation », on a eu, parce qu'on aime faire des schémas, parce qu'on aime faire des dessins et parce qu'on veut connecter un peu tout. On dit non, non, la grande tribulation, c'est ce qui arrive à la fin. Et c'est ce qui arrive avant la bataille d'Armageddon. On aura l'occasion de lire ça certainement dans l'Apocalypse. Et de dire, c'est ces événements, cette grande tribulation finale. Mais notez bien que de cette grande tribulation, moi je lis qu'il y a une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Une foule que personne ne pouvait compter. Moi, ça bug quand on considère que la grande tribulation, c'est quelque chose qui doit arriver. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas sorti nulle part. Oui, c'est essentiellement sorti quand on connecte Daniel... Daniel 12, par exemple. Vous savez, Daniel et les 70 semaines de Daniel. Est-ce que vous connaissez bien les 70 semaines de Daniel? Les 70 semaines de Daniel s'harmonisent bien avec l'Apocalypse. Je vais trop loin. Daniel, chapitre 12, verset 1er. Voilà ce qui est dit chez Daniel. Il est dit, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Une époque de détresse, et le mot « détresse » ici, c'est le même que « tribulation », hein, je veux dire, nous, c'est une notre traduction n'a pas traduit la même chose, mais c'est la même chose dont il est question ici. Une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable. Donc on comprend que Daniel ici va faire référence à quelque chose de un paroxysme au niveau de la détresse. Et puis, dans Daniel 9, il est question ici des 70 semaines de Daniel, si je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent bien les 70 semaines de Daniel? Ou il faut faire une révision? Révision ou pas? Oui, ça nécessite un update. Alors, petite révision des 70 semaines de Daniel. Daniel, chapitre 9, verset 23, « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Ça, c'est pour vous hein, que c'est écrit. « Comprends la vision. » Verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. » Celui qui est oint en hébreu, c'est le Meshaya, c'est le Messie. Le Messie veut dire littéralement celui qui est oint. Verset 25, sache-le donc et comprends. Donc si on dit ça à Daniel, on doit certainement le dire à vous aussi. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le conducteur, il y aura 7 semaines. Et 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines. 7 plus 62, 69. Et on a un bloc de 7 semaines et ensuite un bloc de 62 semaines. Et certains ont fait des calculs assez savants. Moi-même, à un moment donné, je me souviens avoir sorti mes calculatrices pour regarder ça de plus près. Je me suis dit, est-ce qu'il faut aller avec un calendrier solaire, avec un calendrier lunaire? Et finalement, on arrive avec un calendrier prophétique. Vous savez, c'est quoi un calendrier prophétique? C'est qu'on fait des mois de 30 jours, 12 mois de 30 jours. Hein, c'est quand même beaucoup plus facile à calculer les années. Et en regardant ça, parce qu'on a des points de repère très précis ici, le jour de l'annonce et les 7 les 7 premières semaines correspondent exactement entre le moment où Daniel reçoit cette parole et la reconstruction de Jérusalem. 7 semaines d'année. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. 7 semaines d'année. C'est-à-dire que une semaine fait 7 ans, donc 7 semaines, ça fait 7 par 9 et ainsi de suite. Et en calculant ça, eh bien, on arrive à 7 semaines et ensuite on a un autre bloc des 62 semaines et certains, alors dépendamment évidemment de comment on fait ces calculs, il y en a qui sont tellement smart qui disent qu'on arrive pile au jour de la crucifixion. Bon, personnellement, je ne suis pas assez intelligent pour arriver pile au jour de la crucifixion, hein, au jour près, parce qu'on a quand même un départ qui est au jour près, mais néanmoins, on arrive à l'époque de, on va dire ça comme ça, en tout cas la même année, ou certains vont dire le même mois, puis d'autres vont arriver au même jour. Et on s'aperçoit que ces 69 semaines arrivent à ce moment-là. Et regardez ce qu'il est dit au niveau du texte, il dit « Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie le conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés sont rebâtis, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Ce Messie retranché fait donc référence ici à la croix. » Et quelqu'un va dire, oui, mais il manque une semaine. On n'a que 69 semaines. Et dans l'Apocalypse, on a une semaine aussi. Et on n'a pas eu l'occasion encore d'arriver dans cette semaine-là, donc on va juste faire un petit saut dans le futur avant de revenir de revenir à notre texte. Attendez, je n'avais pas prévu de sortir ça maintenant, mais il est question à un moment donner de chiffres très précis. Ils sont mes deux témoins. Alors, vous cherchez avec moi. On trouve à un moment donné des références en jours et en semaines, d'une manière très précise dans l'Apocalypse. Par exemple, dans 11:11, il est dit « après les 3 jours et demi ». Vous voyez ici, on a 3 jours et demi. Et si on remonte un petit peu avant, il est dit en 11:3, « je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours ». Et 1260 jours à raison de 30 jours par mois, ça fait 3 jours et demi. Et donc, on voit qu'on a ici, c'est ça? Oui, parce qu'on a, dans 11, 2, 3 ans et demi. 3 ans et demi, parce que 3 ans et demi, ça fait 3 ans et demi, mais on parle de jours dans 11, dans 11, 9. Et puis dans 11, 11, 2, il est dit pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Bon, on y arrive à peu près. Hein. Donc, on voit que il est question à un moment donné, puis là c'est juste une référence, mais on en a d'autres hein, ailleurs, puis j'ai pas eu le temps de les chercher. Mais on voit clairement dans l'Apocalypse qu'à un moment donné, on a une semaine, qui est subdivisée en 3 jours et demi et 3 jours et demi. 3 jours et demi, ça ressemble à un temps et la moitié d'un temps. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Enfin, bon, bref. On a ici un 3 jours et demi et un 3 jours et demi qui fait 7 semaines. Et donc, certains vont dire, ben voilà, la 70e semaine qui manque chez Daniel, on la retrouve dans l'Apocalypse. Et certains vont dire, ben, vu qu'il nous manque une semaine et qu'il est question dans Daniel, à la fin du livre de Daniel, d'un temps de détresse que on n'avait jamais connu auparavant, certains vont dire, eh bien, ça se connecte avec la grande tribulation. Certains vont dire que les 3 ans et demi au début, c'est un temps où l'Antichrist se manifeste, mais on ne le reconnaît pas. Et à un moment donné, au bout de 3 ans et demi, eh bien, il y a là quelque chose de clair et les choses s'amplifient. Et il y a donc un temps de très grande tribulation et que certains vont appeler la grande tribulation. Personnellement, mais je vous laisse y réfléchir et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Personnellement, je ne suis pas dans cette vue dispensationaliste, hein, c'est assez dispensationaliste, en disant, bon, ben, cette 70e semaine se retrouve là. Mais en ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à croire qu'on est déjà dans la grande tribulation. Que la grande tribulation, ce n'est pas quelque chose à venir. C'est que les premiers lecteurs de l'Apocalypse étaient dans la grande tribulation. Pour eux, c'était clair, ils étaient dans la grande tribulation. Ils vivaient la grande tribulation. Allez demander aux chrétiens qui ont souffert dans toutes sortes d'époques, et même aujourd'hui encore, s'ils ne se considèrent pas comme étant dans une grande tribulation. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une progression et que les choses ne vont pas aller en s'empirant. Certainement que cette tribulation va aller de pire en pire et que la détresse va être de plus en plus lourde. On comprend que c'est contre les chrétiens que cette tribulation est marquée. Hein. C'est vraiment ceux ici qui... Cette tribulation donc met un poids pesant contre les chrétiens, mais que eh bien, la grande tribulation, si je reprends juste le vocabulaire ici, de Apocalypse chapitre 7, nous y sommes déjà. Et ça change la lecture. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, ça devient logique qu'il y ait une grande foule que personne ne pouvait compter. Si cette grande tribulation a commencé déjà il y a quelques centaines d'années. Si cette grande tribulation, ce sont les 3 ans et demi de la fin, de la toute fin, hein, on aura l'occasion de rejouer avec ces chiffres plus tard, mais ça fait beaucoup de monde pour 3 ans et demi et tous les autres. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Alors, ça nous oblige quelque part à modifier un petit peu notre vocabulaire eschatologique et ne pas parler de la grande tribulation comme s'il n'y en avait qu'une, mais la grande tribulation, c'est l'ensemble, en fait, de toutes les tribulations successives qu'il y a eu depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, et il y en aura d'autres. Et que ça va aller en s'amplifiant et en étant de plus en plus dur et de plus en plus fort, certainement. Mais elle a déjà commencé. Donc vous pouvez réfléchir si vous êtes d'un autre avis là-dessus. Et maintenant, ceux qui ont lavé leur robe et qui ont blanchi dans le sang de l'agneau, eh bien, ce sont ceux qui, il y a 1000 ans, il y a 200 ans, aujourd'hui, eh bien, on fait cette expérience et ont reçu Jésus comme étant le sauveur de leur vie et que le sang de Jésus purifie de tout péché et qu'ils ont quelque part été vainqueurs au travers, eh bien, de cette... que l'agneau leur a donné la victoire. Regardez au verset 15, il est dit « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils servent jour et nuit dans son trône. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. » On voit qu'il y a une consolation ici. « Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, donc ce berger qui conduit près des eaux paisibles, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Parce que l'anomalie de la vision peut-être traditionnelle, de considérer ici que la grande tribulation, c'est ces derniers jours, ces derniers temps, de dire, mais alors ceux qui... Je vais poser la question différemment, parce qu'elle mérite d'être soulevée. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus plus tard, mais c'est l'idée de la seconde chance. Je le présente comme ça. Dans bien des églises, et peut-être c'est ce qu'on vous a enseigné, ou peut-être c'est ce que vous avez toujours reçu, on se rassure quelque part en se disant, si on refait un petit peu l'eschatologie, puis on aura l'occasion de rentrer dans ce détail-là quand on y sera, quand le texte eh bien, nous en parlera davantage, mais là on a juste un avant-goût, mais c'est juste pour montrer que la mauvaise interprétation de la grande tribulation peut avoir des effets théologiques et changer toute notre doctrine, mais considérer de dire, bon, comment ça va se passer les temps de la fin? L'apôtre Paul nous parle du retour de Jésus. Et dans l'Apocalypse, il en est question, c'est celui qui vient. Et on l'appelle comme étant celui qui vient. Alors, Jésus revient bientôt. Les apôtres l'ont prêché et l'Apocalypse se termine et se conclut ainsi. L'esprit et l'épouse disent, viens. On attend ce retour-là. Au retour de Jésus... Eh bien, l'apôtre Paul dit, nous les vivants, nous serons enlevés, les morts en Christ, eh bien, ressusciteront. Et donc, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau, où les chrétiens, donc là, pourront goûter, célébrer, eh bien, cette communion de l'épouse qui est avec l'époux, et donc représentée, symbolisée par ces noces de l'agneau. Mais pour ceux qui ne sont pas montés au ciel, pour ceux qui ne seraient pas enlevés, je sais que les Américains aiment bien, ils ont fait toutes sortes de films là-dessus, les Left Behind, ceux qui sont restés derrière. Certains disent, oui, mais bon, ils n'ont pas de chance, mais il y a une petite chance quand même d'être sauvés encore. Et certains disent, mais si ils se prosternent pas devant l'agneau, s'ils se prosternent pas devant la bête, pardon, s'ils n'acceptent pas la marque de la bête, s'ils vont même jusqu'à mourir. Hein, il y en a qui disent, bon attendez, il y a Apocalypse 24, le dit clairement. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors certains vont dire, bon, c'est marqué ici qu'il y en a qui ne se sont pas prosternés devant la bête, qui n'ont pas adoré la bête. Et bah, maintenant, après, ça dépend de comment on établit notre eschatologie ici. Mais si vous prenez l'idée que, après l'enlèvement, au risque d'être décapité, bon, il faudra passer par là quand même. Mais il y a une chance, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais bon. Mais il y a l'occasion, eh bien, de revenir et d'avoir une deuxième opportunité d'être sauvé. Personnellement, je ne prêcherai jamais ça. Parce que ce serait induire dans l'erreur. Même si certains vont dire, oui, mais quand même, d'accord, mais si tu n'es pas sûr de toi, et que tu dis à quelqu'un qu'il a une deuxième chance, quand il arrive de l'autre bord, il se rend compte qu'il n'y a pas de deuxième chance, tu vas être responsable de ça. Il vaut mieux, vous savez, il ne faut pas prendre de chance. Il vaut mieux être prêt le premier coup, et pas dire, il y aura une chance, la deuxième, il y a un deuxième départ. Non, non, personnellement, je crois qu'il n'y a pas de deuxième départ. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas logique dans ce deuxième départ. Pourquoi dans ce cas-là, il y aurait un premier? Pourquoi pas un troisième dans ce cas-là? Puis pourquoi pas un quatrième? Jusqu'où on va dans ce genre d'occasion? Et ce qui me fait dire ça, évidemment, j'ai des arguments théologiques, c'est que ce qui amène à la repentance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais il est dit que quand Jésus reviendra chercher son Église, le Saint-Esprit ne sera plus là. Alors si, pendant que l'Esprit agit pour convaincre les cœurs, certains ne se repentent pas et n'acceptent pas, qu'est-ce qui pourra les convaincre de plus que l'Esprit? Est-ce que vous me suivez? Et il y a quelque chose qui est pernicieux, parce que, particulièrement peut-être pour ceux qui grandissent dans l'Église ou qui sont tièdes, hein, pour reprendre ce que Jésus écrit à Laodicée, pour ceux qui sont tièdes, eh bien, on dit, ah, on se donne un petit peu bonne conscience en disant, ben, si je ne suis pas pris, j'aurai une deuxième chance. Ce ne sera pas facile, mais il y aura une deuxième chance. Je préfère vous dire, il n'y a pas de deuxième chance. S'il y en a une, vous ne m'en voudrez pas si vous serez du premier voyage. Mais s'il n'y en a pas, vous m'en voudrez de ne pas vous l'avoir dit. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, vous vous dites, est-ce que vous êtes... Non, moi je suis sûr, mais je veux dire, si vous n'êtes pas sûr, au moins, pour reprendre un petit peu la pensée de Blaise Pascal, un philosophe chrétien, au moins, si tu veux réfléchir comme ça, en disant, prends pas de chance d'espérer dans une porte, tu n'es même pas sûr qu'elle va s'ouvrir. On sait que Jésus revient nous chercher, ça c'est sûr, c'est officiel. Reste sur ce premier départ, parce que le deuxième, moi personnellement, je crois qu'il n'existe pas. Si quelqu'un veut croire qu'il existe ce deuxième départ, cette deuxième opportunité, c'est votre choix. Mais je ne veux pas personnellement, je me refuserai personnellement d'annoncer ça, parce que je ne crois pas que ce soit aussi clair et évident dans la Bible. Par contre, c'est rassurant, ça c'est sûr, c'est toujours rassurant de se dire, ouf, si je manque le premier départ, j'aurai toujours un deuxième. Jésus dit, sois prêt. Il ne dit pas, si tu n'es pas prêt, tu prendras le deuxième voyage. Il dit, sois prêt. Et quand il parle de son retour, et quand il raconte en parabole, eh bien, il dit, heureux, eh bien, le serviteur que le maître trouvera prêt. Hein? Et nous sommes appelés à être prêts pour le retour de Jésus. Ben maintenant, quelqu'un va dire, oui, mais alors, ça veut dire quoi, là, ce Apocalypse, chapitre 20, eh bien, qui disent qu'ils n'ont pas adoré la bête? Ben maintenant, tout dépend où vous placez cette histoire-là. Vous savez, le problème, c'est que nous, on met tout dans des cases comme ça, mais le temps, c'est quelque chose qui défile, et à un moment donné, je veux dire, l'Antéchrist sera au milieu de nous, alors que l'Église n'est pas encore enlevée. Et il y a, je crois que, mais on aura l'occasion d'en reparler quand on arrivera dans ces temps-là, que dans ce temps extrême de tribulation, l'Église est enlevée et y échappera, Mais ça ne veut pas dire que l'Église échappera à toutes les tribulations. La preuve, nous disons que la grande tribulation a déjà commencé et qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent déjà une grande tribulation. Alors que ce serait quelque part illogique de dire « Ah ben non, nous les chrétiens, on ne connaîtra jamais ça, le Seigneur va venir nous chercher avant, tout va bien pour nous. » Non, soyons prêts et puis c'est possible que l'on vive des temps difficiles. Mais on est prêts. Non ? Ça vous fait peur ? Et c'est possible que dans ce lot-là, il y en ait quelques-uns bon, qui fassent partie de ce nombre-là. Mais là encore, et on aura l'occasion de détailler ça, et j'insiste sur le fait que je ne peux pas tout dire ce soir, mais on aura l'occasion de détailler dans quelques semaines eh bien, un petit peu cette compréhension de l'Apocalypse pour dire que oui, des fois il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas évidentes, mais... on ne reste pas sur le détail, on prend la vue d'ensemble. Des fois, il y a un petit détail qu'on ne comprend pas, mais ce qui va être important, c'est de comprendre la vue d'ensemble. Et si on le fait pour toute l'Apocalypse, il y a peut-être bien des détails qu'on ne comprend pas dans l'Apocalypse, mais on comprend la vue d'ensemble. La vue d'ensemble, c'est que nous sommes vainqueurs avec lui. C'est que l'histoire finit bien, comme Daniel l'a dit ce matin. C'est que nous sommes vainqueurs avec lui. Oui, il y a des temps difficiles qui s'approchent, mais avec lui, nous sommes vainqueurs. Et même dans ce passage d'Apocalypse chapitre 7 où il peut y avoir des moments qui font peur au départ, il est question quand même de ceux qui doivent faire du mal à la terre, à la mer, ainsi de suite, eh bien, il est question de l'agneau qui au milieu d'eux, les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et ne serait-ce que cette phrase, vous savez, d'autant plus pour les premiers lecteurs de l'Apocalypse, et je ne le répéterai jamais assez, les toutes premières personnes qui ont lu ce texte-là, ils vivaient une grande tribulation. Et quand ils lisent cette vision que Jean a eue, et que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, ça doit être tout un réconfort pour eux. De la même manière pour nous aujourd'hui. Même si tu vis quelque chose qui n'est peut-être pas ce que tu penses être la grande tribulation, mais néanmoins quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de pénible, quelque chose de lourd, quelque chose qui attriste, quelque chose qui fait mal, de réaliser que notre Dieu est celui qui nous aime et qui est celui qui console de toute consolation et qui l'essuiera toute larme de nos yeux. Et que dans sa présence, lorsque nous serons avec lui, nous ne serons pas là en train de nous souvenir de tout le mal que nous avons eu, parce qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Et il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de douleur, mais il y aura cette joie. Entre dans la joie de ton maître. Il y aura cette joie, il y aura ces noces, il y aura cette fête. Et l'Apocalypse, oui, peut parler de choses qui sont très dures et difficiles et de grandes souffrances. Mais l'Apocalypse aussi annonce une grande consolation, une paix, une joie, une restauration. Et c'est pour cela qu'on peut dire et qu'il faut dire encore aujourd'hui, l'Apocalypse est avant tout un livre de bonnes nouvelles. C'est une révélation eh bien, de l'amour de Dieu, de son plan qu'il a pour nous et pour chacun d'entre nous. On va arrêter là pour ce soir, on va prier. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence ce soir encore et nous voulons laisser ta parole toucher notre cœur et nous voulons la comprendre. Seigneur, s'il y a des choses qui sont mystérieuses, s'il y a des détails techniques, s'il y a des verbes, des mots, des situations qu'on a du mal à comprendre, apprends-nous au moins ce soir à prendre du recul et à voir que tu es celui qui veut essuyer les larmes de nos yeux. Tu es celui qui en bout de course, a préparé de belles choses pour nous. Et que même s'il peut y avoir un temps de tribulation, même s'il peut y avoir un temps de souffrance, même s'il peut y avoir un temps de persécution, eh bien nous savons que ce temps cessera un jour et que nous serons dans ta présence et qu'il n'y aura plus de souffrance, de douleur, de soleil qui nous atteindra, comme dit ce texte, mais que dans ta présence, tu nous conduiras auprès de ces eaux paisibles, ces eaux de la vie, et que tu essuieras toute l'âme. Merci Seigneur pour cette formidable espérance que nous avons en toi et pour cette révélation, ce voile qui est levé sur les choses à venir, non pas pour faire peur ou terroriser, mais pour au contraire encourager et consoler. Et nous disons, nous avons hâte d'être dans ta présence et d'être avec toi. Et nous voulons d'ores et déjà, avec cette révélation que nous avons de la louange céleste, eh bien, rendre hommage, louange, honneur, gloire, action de grâce, puissance, autorité à l'agneau et à son Père. À toi soit toute la gloire encore dans cette soirée.